je pense qu'en effet, cette journée ne pouvait pas se terminer sans qu'on raconte brièvement l'histoire de la CIPA, ne serait-ce que parce que sans Geneviève, il n'y aurait pas de CIPA. Et puis aussi parce que la réflexion autour de la CIPA que j'ai pu partager avec elle, cette communication a été pour moi absolument précieuse. Et c'est une occasion pour moi de vous le dire, Geneviève, et de vous en remercier. Alors, 2004, le 19 août très précisément, la revue Nature et Neurosciences publie une communication rédigée pour l'INSERM par Monica Zilbovicius et qui est intitulée « Une anomalie dans la réponse cérébrale à la perception de la voix humaine dans l'autisme ». Elle a mené cette étude au sein du service hospitalier Frédéric Joliot en collaboration avec le Centre de recherche en neuropsychologie et cognition, le CERNEC, et également avec l'Université de Montréal. Dans cet écrit, elle précise que chez les autistes, il y a, et je vais la citer, une absence d'activation de l'aire spécifique de la perception de la voix chez ces sujets. Les aires cérébrales activées sont exactement les mêmes, qu'il s'agisse des voix humaines ou des sons non vocaux. Et plus loin, aucune activation spécifique d'une reconnaissance de la voix humaine n'a pu être mise en évidence. Plus loin encore, ces anomalies du traitement de la voix et des visages suggèrent que les difficultés des autistes à comprendre l'état émotionnel d'autrui et à interagir avec lui pourraient être liées à un déficit de la perception des stimuli sociaux. Et elle conclut, la mise en évidence des déficits perceptifs pourrait permettre l'élaboration de stratégies de rééducation visant à induire un traitement spécifique des informations vocales et sociales. Fin des citations. Alors bien sûr, il n'y a pas à partir en guerre contre tout ce qu'elle avance là, mais on doit quand même relever que rien n'est évoqué de l'aspect psychodynamique des autismes, causes, conséquences, des affects, des émotions. C'est le grand silence. Un silence que va renforcer la presse, qui va faire largement écho à cette communication. Alors, il y a l'Express, Le Monde, Le Figaro, Le Nouvel Observateur, enfin, ça a eu vraiment un grand retentissement. Alors, par exemple, dans Le Figaro, on peut lire « Lorsque des sujets anormaux entendent le son d'une voix humaine, une région bien identifiée du cerveau qui apparaît clairement à l'IRM s'active. Chez les sujets autistes soumis aux mêmes stimuli auditifs, la même région présente une absence totale d'activité. Et dans Le Monde, il est admis dans les milieux scientifiques que l'autisme est la conséquence de graves troubles du développement neurologique survenus durant la grossesse et la petite enfance. Donc, c'est cette absence, cette non-reconnaissance des difficultés psychodynamiques des autismes qui va amener Geneviève Hague à réunir le 25 septembre 2004 un certain nombre d'entre nous pour que nous réfléchissions ensemble à une ou à des réactions possibles à cette absence. Nous nous rendrons compte, à l'occasion de cette rencontre, que les clivages institutionnels sont encore bien trop souvent monnaie courante, pas de contact entre les, ou très peu en tout cas, entre les psychothérapeutes et les autres intervenants, et un partenariat tout à fait insuffisant, trop souvent aussi, avec les parents. À la suite de cette rencontre, Geneviève va également réagir par écrit, et je vais vous lire quelques passages de ce texte qui est à mon avis extrêmement important. Le besoin de cette rencontre s'en est ressenti dans le contexte actuel de récusation de la psychanalyse pour les psychothérapies en général, et plus encore pour celle des enfants avec autisme, en recourant à ce sujet à des extrapolations à partir de recherches génétiques et neurophysiologiques, en elles-mêmes fort intéressantes et nécessaires pour l'avancée des connaissances, mais trop souvent utilisées pour réfuter toute psychopathologie au profit d'une causalité neurologique. Et plus loin, des familles sont troublées par cette regrettable polémique entre les praticiens de l'approche psychothérapique et plus généralement psychodynamique et d'autre part, les déductions hâtives de certains représentants des sciences cognitives, neurophysiologiques et génétiques, alors que d'autres chercheurs de ces mêmes disciplines souhaitent au contraire une articulation avec les psychiatres et les psychanalystes qui eux-mêmes ne doivent pas s'enfermer dans leur propre discipline. Alors je reviens maintenant sur cette première réunion, d'une part parce qu'elle nous a permis de constater que les clivages que Geneviève évoquait dans son texte étaient encore bien présents, d'autre part parce que c'est à la suite de cette rencontre et de cet écrit qu'émergera le projet de la CIPA. Nous souhaiterons créer une association qui pourra nous permettre de mieux réfléchir ensemble, de mieux faire connaître les différentes positions scientifiques, ça nous semblait très important, et de partager nos positions et nos approches de l'autisme, des autismes. S'installeront progressivement trois coordinations annuelles, des temps de réflexion avec Geneviève, des congrès à Paris et en province, et puis, progressivement aussi, s'installeront des groupes de travail autour de thèmes divers, alors j'en cite juste quelques-uns, les évaluations, quelles thérapeutiques, quelles méthodes éducatives proposer aux sujets autistiques avec déficit moyen et sévère, quelles doivent être les jonctions cliniques entre psychanalyse, neurosciences, biologie et génétique, approfondissement des processus thérapeutiques, collaboration entre psychothérapeutes, psychopédagogues et pédagogues, les émergences du langage, les sujets autistes et de haut niveau et Asperger, les autistes vieillissants, autisme et scolarité, oui, on avait un projet large, les relations parents professionnels. Ces formations seront proposées tant à Paris qu'en province. Alors, je ne vous cite ni le nom des responsables, ni les contenus, parce que vous les trouvez tous sur le site de la CIPA, si ça vous intéresse. Alors, je reviens un peu en arrière. Avec l'aide précieuse de Michel Hague, nous allons créer en 2005 la CIPA. Vous vous souvenez de ce que ça veut dire, hein, Coordination internationale de psychothérapeutes, psychanalystes, etc. Et en 2010, des collègues non-psychanalystes vont demander à se joindre à nous. La CIPA deviendra alors une coordination internationale de psychothérapeutes, psychanalystes et membres associés s'occupant de personnes autistes. Il y a actuellement 198 adhérents. Un peu plus tard, nous envisagerons de proposer les formations institutionnelles que j'ai déjà évoquées. Les objets de la CIPA sont intitulés ainsi dans les statuts, et je les cite car ils montrent bien à quel point nous étions des psychanalystes soucieux de ne pas rester dans notre tour d'ivoire. Donc, le lien avec les autres domaines scientifiques, l'articulation des psychanalystes avec les autres professionnels de l'autisme, la formation de l'ensemble des professionnels concernés par l'autisme, l'information des professionnels, des personnes intéressées et le grand public, une réflexion autour des meilleures manières d'aider les familles, la défense d'une approche plurielle et éthique de l'autisme en France. Alors, certains d'entre vous se sont sans doute étonnés que Geneviève ait souhaité que ce soit moi qui prenne la présidence de la CIPA. Je dois dire que moi-même, j'ai été très étonnée et pas convaincue du tout. Mais elle considérait à cette époque que je représentais plus qu'elle les objectifs de la CIPA, puisque j'étais formée aux approches éducatives, TEACH, PECS, MACATON, ainsi qu'aux évaluations cognitives, et donc elle avait souhaité être secrétaire générale. Très rapidement, beaucoup de collègues ont adhéré à la CIPA, et aujourd'hui nous sommes 193 membres à nous réunir en coordination trois fois par an, à en publier les contenus, à participer au groupe de travail que j'ai évoqué plus haut et à proposer depuis 2014 des congrès à Paris et en province. Un beau chemin parcouru, beaucoup d'interventions passionnantes et surtout, et ça j'y insiste, la continuité, le respect des objectifs qui avaient été les nôtres, ce que Geneviève et moi-même souhaitions faire connaître à la CIPA, à savoir que là, les pathologies autistiques, qui sont essentiellement des pathologies du lien, ne pouvait que souffrir de toute absence d'une collaboration interprofessionnelle, d'un non-partage des informations, d'une non-mise en commun des objectifs et beaucoup, beaucoup aussi d'une absence de partenariat avec les parents. Je pense donc que ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est de formuler un grand merci à Geneviève, grâce à qui nous sommes encore aujourd'hui réunis, comme nous le sommes depuis 13 ans.